나르르가 허르웟 저래가 흡이
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Ondes de Chine.
Chasing. 是什么？朝着反方向走去，在楼梯的角落找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里。曾经并肩往前的伙伴，沉默着懂得我的委屈，时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭，又笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。
深深凝望你，
水墨丹青是你大爱的写意，红色血脉流淌不屈的勇气，
紫气东来香蕊和平的记忆，我用赤诚的心紧紧拥抱你，
深深爱你，美丽中国，历尽千年沧桑依然美丽，
永远爱你，美丽中国，你风情万种雄浑飘。 来相偎，和平的情谊，我用出征的心紧紧拥抱。
Voilà, voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque premier samedi du mois, c'est l'heure de retrouver le magazine Ondes de Chine, donc un magazine que vous pourrez réécouter dans une heure sur le site campusil.com. Actuellement, eh bien, en DAB+, aussi sur la région lilloise et l'Artois, et puis voilà, en FM en 106,6. Donc aujourd'hui, un programme consacré à la nature et aux problèmes écologiques en Chine. Et ce programme à l'occasion de la sortie d'un ouvrage passionnant qui s'appelle « Quand la Chine s'éveille verte ». Un ouvrage écrit par Nathalie Bastianelli qui est avec nous en ligne. Bonjour Nathalie Bastianelli.
Bonjour René Laverne.
Voilà, donc un ouvrage que j'ai lu entièrement. Il est copieux, il est très documenté, beaucoup de chiffres, beaucoup de précisions. Et évidemment, quand on connaît un peu la Chine, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de ce qu'on constate. Hein. Et puis, il y a des façons de voir aussi l'avenir que vous exprimez au travers de cet ouvrage. Alors, première question, donc, ce livre, il est issu de vos expériences, de vos pratiques aussi en Chine, puisque vous avez organisé un certain nombre d'événements dont vous pouvez peut-être nous parler.
Oui, effectivement. Alors, j'habitais 5 ans en Chine pour raisons professionnelles, et après, j'ai souhaité créer une ONG qui s'appelle We Belong to Change, et qui organise chaque année, hors période de Covid, un événement annuel pour promouvoir les innovations durables et une consommation plus responsable. Et donc, je faisais cet événement à Pékin ou Shanghai, et où j'invitais des pionniers du monde entier, et pour moitié de Chine, pour sensibiliser les jeunes générations à avoir un autre point de vue sur la manière de vivre, de consommer. Et cet événement est enregistré, diffusé en direct sur les réseaux sociaux chinois.
Alors, les ONG ne sont pas toujours les bienvenues en Chine, du moins quand elles ne complètent pas ou ne se mettent pas en phase avec un projet politique qui est celui du gouvernement chinois. Hein. Donc j'imagine que si vous avez pu réaliser ces événements, c'est qu'il y avait une sorte d'entente et donc des événements qui correspondent à une certaine logique, voire une éthique régionale.
Oui, vous avez raison. Alors maintenant, depuis les pollutions très visibles de 2013, le sujet de l'environnement est devenu assez consensuel et les ONG qui soutiennent justement des solutions pour la protection de l'environnement sont plutôt soutenues. Moi, étant étrangère, il a fallu que je fasse une coopération avec une ONG locale pour arriver à organiser ces événements sur place. Mais tout ce qui est lié à l'environnement maintenant, alors qu'elles étaient muselées avant, depuis 2013, on peut dire qu'elles sont soutenues, voire financées parfois par le gouvernement.
Alors c'est vrai qu'on a entendu des propos qui sont assez clairs sur les projets chinois en termes d'environnement, et notamment un équilibre des ressources en termes d'énergie, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, pour résumer, on va dire que pendant des années, la Chine était un peu endormie, on va dire ça comme ça, et qu'elle est sortie un petit peu de ce sommeil qui était quand même assez profond en revenant à la surface et bien sûr en consommant énormément depuis une vingtaine d'années. Et là, maintenant, on ne peut pas dire que le développement de la consommation soit arrivé à son apogée. Peut-être que ça peut encore monter un petit peu, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens aussi de consommer. Donc, il est impératif, bien sûr, pour la Chine de revoir un petit peu son mode de fonctionnement et son moteur, peut-être, pour que ce soit compatible avec les enjeux de la planète. C'est un peu ça, l'idée.
Oui, quand vous dites qu'elle s'est endormie, c'est vrai que la Chine a eu un réveil brutal en janvier 2013, que les médias chinois ont appelé l'ère apocalypse, quand tout le nord de la Chine s'est retrouvé sous un brouillard épais, noir, qui a duré 3 semaines. Et c'est de là qu'il y a eu un basculement, où elle a reconnu que l'accélération de l'industrialisation, du développement du pays des 30 à 40 dernières années avait été fait au détriment de l'environnement. Mmh. Et non. Donc, ils ont lancé le programme qui a appelé « civilisation écologique ». Ils préfèrent utiliser ce terme plutôt que « développement durable » et qui permet maintenant d'intégrer ces enjeux dans leur développement et dans leur stratégie à terme. Mmh.
Alors, 3 ans auparavant, je parle avant 2013, il y a eu à Shanghai l'exposition universelle à laquelle je suis allé la visiter. Et à l'époque, c'était vraiment mettre en avant les qualités de la ville en tant que résidence et donc l'accueil aussi des personnes qui sont énormément arrivées des provinces et donc leur trouver un habitat, un mode de vie très différent. Et donc l'habitat aussi en termes de consommation de surface au sol et aussi peut-être d'énergie, c'est quelque chose qui est pris en compte ou qui commence à être pris en compte dans les politiques.
Oui, ben ça rentre totalement dans la stratégie, dans les plans quinquennaux chinois qui maintenant intègrent pas seulement au niveau du mix énergétique, mais aussi de la construction, puisqu'on sait à quel point c'est impactant pour l'environnement. Et donc maintenant, les grands constructeurs chinois ont intégré des normes environnementales, ont commencé à avoir des éco-constructions et aussi à faire en sorte que la pollution intérieure des habitats soit égale à zéro, sachant que c'est un vrai souci. Quand on vit en Chine, on ne se soucie pas uniquement de la pollution extérieure, mais aussi de la pollution intérieure qui parfois était pas très éloignée de celle qu'ils devaient, à laquelle ils devaient faire face quand ils sortaient de chez eux.
Mmh. Alors, une caractéristique de la Chine, c'est que les propriétés, les bâtiments, même les résidences, hein, sont attribués en termes de surface au sol pour 70 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, au bout d'un moment, l'État peut reprendre tout ça en main et raser et reconstruire du neuf avec des propriétés nouvelles, sans doute liées aux nouvelles normes à mettre en place pour les prochains constructeurs.
Alors, je pense que la Chine, elle est dans un tel développement, parce qu'il y a, cette émergence de la classe moyenne qui continue de grossir, que je crois que jusqu'à aujourd'hui, elle s'est beaucoup focalisée sur continuer à construire, à agrandir les villes, à construire des villes nouvelles. Mais elle a imposé des normes qui ont fait que des constructeurs se sont mis à avoir des immeubles éco-construits qui sont à énergie positive, c'est-à-dire qui captent l'énergie solaire, thermique, et qui arrivent à utiliser cette énergie pour faire fonctionner les immeubles, à avoir très peu de déchets, beaucoup moins de matériaux, donc qui fait qu'on est arrivé maintenant dans des normes de construction qui sont beaucoup plus responsables. Alors évidemment, à l'échelle de la Chine, probablement que ça a été beaucoup fait par des grands groupes comme le groupe Soho, comme le groupe Broad, qui sont des groupes leaders en Chine. Je ne sais pas pour Evergrande, puisque voilà, il a été beaucoup dans l'actualité, mais ça, c'est vraiment des groupes que j'avais suivis. Et donc voilà, on voit bien qu'il y a maintenant une obligation pour la construction de veiller à ce que ce soit le plus possible responsable, puisque maintenant chaque province a des objectifs environnementaux et qui définissent l'avenir politique des gouverneurs et des responsables politiques. Donc c'est vraiment maintenant intégré dans les stratégies nationales, dans la stratégie nationale et dans les stratégies locales.
Voilà, et on sent également que les choses bougent sur justement cette spéculation qui a fait qu'un certain nombre d'appartements ont été mis en réserve pour des fins de profit, mais pas mis en circulation pour que les gens puissent y habiter. Donc ça commence à être pris en compte et il va sans doute y avoir des mesures pour taxer ou faire que tout cela soit plus correct.
Oui, oui, il y a eu la bulle immobilière et là, récemment, on a vu que ça ne tenait plus, donc probablement qu'on va bientôt avoir des informations sur les décisions de ce que va prendre le gouvernement pour essayer de réguler le secteur et arrêter justement cette expansion d'investissement à tout va et de faire des villes fantômes, comme il y en a en Chine.
Non, pour résumer un petit peu l'impact de la Chine sur le monde, si on parle en masse, c'est-à-dire de manière absolue, évidemment c'est un gros pays qui consomme, qui pollue. Pour le coup, le nombre par habitant étant, le nombre d'habitants étant particulièrement élevé, la part de pollution par habitant est nettement inférieure à des pays même européens.
Oui, c'est cela. C'est-à-dire c'est l'effet d'échelle. Voilà, si vous mettez 1,4 milliard d'habitants en Europe ou 1,4 milliard d'habitants aux États-Unis, bon, on peut imaginer l'impact que cela aurait. Mais le chinois n'est pas encore au même niveau de consommation énergétique, de consommation alimentaire, de consommation de viande qu'un Européen ou qu'un Américain. Mais avec cette classe moyenne qui grandit vite, elle s'en rapproche.
Alors, parallèlement, il y a eu des pratiques antérieures hein, qui est, par exemple, que dans les régions du Sud, l'hiver, les immeubles collectifs ne soient pas chauffés, par exemple. Ça continue.
Oui, absolument, c'est vrai.
Et aussi, à un moment donné, enfin, ça existe sans doute encore, hein, il y avait pour les circuits d'eau chaude dans les maisons, dans les appartements, il y avait sur le toit des appareils qui captaient l'énergie solaire, enfin qui captaient la chaleur du soleil plus exactement, pour réchauffer l'eau dans les tuyaux avec un triple ou double circuit d'eau chaude, dans les immeubles.
Oui, de toute façon, ils ont commencé à développer le solaire depuis des années, hein, bien avant l'apocalypse. Moi, je me souviens quand je vivais après le 5e périphérique de Pékin, il y avait des petits villages à proximité et les lampadaires étaient fournis par l'électricité solaire. Donc, c'est des choses que, voilà, ce genre de lampadaires, je ne les voyais pas en Europe, mais et dans des petits villages reculés chez moi, ils étaient déjà développés. Donc, il y avait quand même des choses qui étaient faites. Depuis quelques années déjà.
Alors c'est vrai que ces lampadaires, on les voit notamment sur les routes qui mènent au Tibet, hein, et avec le petit drapeau offert par l'État. Donc les lampadaires solaires, on les retrouve sur les routes, dans les campagnes, partout. Voilà. Donc évidemment, c'est ça, et puis d'autres systèmes en réseau. Moi, j'ai vu de façon incroyable des champs d'éoliennes de 2 000 à 3 000 éoliennes regroupées dans des déserts, on va dire, ouais, des déserts, hein. Je sais pas, c'était dans le Gansu ou quelque part comme ça. Je veux dire, c'est assez impressionnant, sans compter aussi les champs de capteurs solaires, etc. Il y a une tentative de diversification de toutes les sources énergétiques, sachant que pour compenser l'énorme quantité actuellement de charbon encore utilisé, il va falloir vraiment du temps.
Alors, c'est vrai que la Chine a vraiment, se donne les moyens en termes d'investissement de modifier son mix énergétique. C'est absolument indispensable pour qu'elle ne continue pas à émettre autant d'émissions de CO2. Et d'ailleurs, elle s'est engagée au niveau international, devant l'ONU en septembre 2020, enfin Xi Jinping, le président, s'est engagé aux deux objectifs 2030, ce qu'on appelle les objectifs 30-60, c'est-à-dire que avant 9 ans, inverser la courbe des émissions de CO2 alors que la croissance continue de grandir en Chine, et d'ici 2060, que le pays soit neutre en émissions de CO2. Ça veut dire que ça mérite des investissements absolument massifs. Elle a commencé à le faire, c'est-à-dire qu'elle est devenue le premier investisseur en solaire, en éolien, en hydraulique, en nucléaire. Elle a lancé son marché carbone en juillet, là, cet été. Elle a la chance d'avoir... La Chine, c'est un pays continent, donc il y a des grands espaces où il n'y a pas de population, et donc elle peut se permettre effectivement d'avoir ces grands champs d'éoliennes sans qu'il y ait de nuisances par rapport aux populations, même si on peut imaginer que les nuisances, elles existent par rapport à la biodiversité. Mais et parfois, ces champs d'éoliennes ne sont pas encore reliés au réseau électrique, c'est comme, voilà, c'est comme si ça rentrait dans des plans quinquennaux qu'ils installent et qu'ils vont faire après les raccordements. Mmh. Mais on peut dire que la Chine, oui, a commencé sa transition énergétique, qui est absolument indispensable si elle veut arriver à ces deux objectifs et donc faire réduire la part du charbon, qui est encore autour de 60-65%. Et là, on l'a vu, avec les tensions actuelles, son économie qui est repartie très fort, le froid qui est arrivé, elle a remis à tourner ses centrales à charbon à tout va. Et donc Pékin, hier, était retombé avec ce brouillard toxique. Donc voilà, les Chinois, je pense qu'ils réalisent très bien, en tout cas le gouvernement qui est basé à Pékin, réalise très bien qu'il faut n'y a pas d'autre solution que de sortir du charbon pour arriver à faire sa mue écologique, ou en tout cas sa mue énergétique.
Alors, moi je suis né dans le bassin minier de l'Artois, l'ex-bassin minier maintenant, hein, où il y avait une production de charbon conséquente et une pollution extraordinaire aussi. Hein. J'ai vécu ça, hein, ces pollutions où on respire vraiment des airs gravement pollués, tant par le charbon que par les usines qui travaillaient autour de ça pour en faire des produits dérivés, etc. J'ai vu depuis notre région, hein, Hauts-de-France, qui s'est attelée à réhabiliter les terrains où il y avait ces mines, etc. On préservait aussi certaines qui témoignent du passé, hein, dans le cadre justement de l'UNESCO, bassin minier de l'Artois, hein, bassin UNESCO qui est classé. Donc, j'ai vu aussi, quand je suis allé entre le Ningxia et la Mongolie intérieure, une zone minière qui était complètement réhabilitée et où on en a créé un espace vert avec des expérimentations de circuits d'eau qui sont gérés avec des filtres, avec des marées, avec des oiseaux qui viennent, etc. C'est très, très sympa, très beau à la place de ces industries minières qui ont été rasées de la surface, hein, en termes de tout ce qui était mine, etc. Donc, il y a eu vraiment cette volonté, à un moment donné, de réhabiliter les sols, les surfaces, et d'en faire des lieux écologiques. Et puis, il y a eu cette contrainte nouvelle, hein, de retrouver le charbon comme énergie en réouvrant des mines. Alors, je ne sais pas si elles ont été choisies plutôt là que là. Je sais que dans le Shaanxi, il y en a beaucoup. Et puis là, vers la Mongolie, il y en a aussi certaines. Donc voilà, est-ce que selon les endroits où on installe, où on ouvre, on ferme des puits de mine, il peut y avoir aussi un moyen de réguler pour les habitants, hein, les zones de pollution d'un niveau acceptable, on va dire?
Bah, pour les habitants, pour eux, c'est une priorité parce que ce sont les premiers impactés. Donc voilà, il y a beaucoup de cancers en Chine liés justement à la pollution atmosphérique. Et donc c'est vrai que l'exemple que vous donnez, probablement, alors là, je sais pas, mais peut-être qu'il y a une centrale nucléaire qui a été créée à proximité et qui permet de réduire l'activité des centrales à charbon. Mais aujourd'hui, on voit que la Chine continue d'ouvrir des centrales à charbon, qu'elle les fait tourner à plein régime, c'est ce qui est arrivé ces jours derniers, et qu'elle n'est pas encore sortie de cette... consommation énergétique, puisque voilà, ça prend encore... ça prend presque les deux tiers de son mix énergétique. Mais je crois qu'elle a décidé, en tout cas, c'est ce qu'elle annonce, et dans son 15e plan qui va faire 2006-2030, justement de réduire de manière drastique la part du charbon dans son mix énergétique. Voilà, elle l'a annoncé après le 14e plan. Le 14e plan, il va se finir en 2025. Donc, normalement, ça va commencer à diminuer à partir de 2026. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu lire.
Voilà. Donc, on sent bien que la Chine est lancée, dans tout ce mouvement de trouver de nouvelles sources d'énergie et de les diversifier. Sans doute même est-elle pour le monde un fournisseur de matériel qui permettront aussi à d'autres pays de trouver des solutions. Les problèmes sont quand même assez répandus, hein, au niveau du monde. Donc, c'est une certaine responsabilité, et aussi il y a une attente des autres pays de la Chine en tant que solutionneur, quelque part.
Ah ben, il y a une attente, oui, de la population des autres pays, puisque la Chine est le premier émetteur d'émissions de CO2. Donc, c'est quand même le pays qui, à date d'aujourd'hui, est le plus gros pollueur de la planète. Donc, évidemment, que si la Chine ne se mettait pas à transformer son modèle économique, on aurait des difficultés à s'en sortir sans la Chine. Mais si la Chine vraiment avance sur ces sujets, bah, ça donne l'espoir qu'on peut s'en sortir. En tout cas, on n'y arrivera pas sans la Chine.
Mmh. Non, si on avait un chiffre exact sur la pollution par nombre de personnes, hein, est-ce qu'il faudrait aussi faire que les pays qui ont une grande avance dans cette pollution, enfin en chiffres par habitant, fassent aussi un gros effort pour aussi descendre leur consommation, leur pollution?
Ah mais ça, c'est indéniable. Hein. Il y a suffisamment d'études qui sortent, qui montrent à quel point ce sont les gens les plus riches qui sont les plus grands responsables de la pollution et des émissions de CO2 et du changement climatique ou de l'accélération du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc, bien évidemment que sur ces sujets, sur le sujet du réchauffement climatique, il n'y a pas de frontières. On est vraiment tous liés à ce même destin commun et il faut absolument que tout le monde s'implique et à mettre des mesures concrètes et non pas des vœux pieux pour arriver à changer le modèle. Donc ça, évidemment, ça concerne un grand nombre de pays et notamment les pays occidentalisés.
Alors, les pays occidentaux qui ont fait appel à la Chine comme lieu de production industrielle, je veux dire, conséquent, hein, c'était à un moment donné l'usine du monde, effectivement, ils ont un peu délégué leur responsabilité, ils se sont déchargés de leur responsabilité environnementale en faisant produire par la Chine des choses qui, évidemment, chez eux, auraient pollué. Est-ce que ça évolue cette situation?
Bah, c'est clair qu'on a une responsabilité. En fait, notre consommation, en tout cas une part de notre consommation qui est produite en Chine, émet des émissions de CO2 là-bas. Et donc, je lisais récemment un article qui expliquait qu'un Français qui émet environ entre 6 et 7 tonnes de CO2 par an, eh bien, si on y intègre les produits importés, on est à 11 tonnes. Voilà, donc c'est toujours important de regarder comment on analyse les chiffres sur la responsabilité de chacun sur le résultat donné. Donc je pense que on sait qu'une des solutions, c'est de produire local et de consommer local. Donc il va falloir que des grosses entreprises, des grosses multinationales acceptent de se contenter de produire local et de vendre en local. Mais là, on n'y est pas encore.
Alors, j'ai vu aussi dans votre livre, hein, Quand la Chine s'éveille verte, qu'en Chine, il y a des systèmes de revente de capital de pollution, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fonction de... une entreprise pouvait acheter à une autre le bénéfice qu'elle faisait sur sa consommation d'énergie.
En fait, là, ce que vous parlez, c'est du marché carbone chinois.
Voilà, tout à fait.
Donc, on a un marché carbone européen. D'ailleurs, la Chine s'en est beaucoup inspirée. Mmh. Oui, effectivement, maintenant, vous avez des quotas qui sont mis en place pour les entreprises les plus polluantes. Donc, ce marché carbone a été testé depuis 2013 sur 7 régions et villes les plus industrialisées et les plus riches. Et il a été lancé officiellement en juillet 2021. Donc c'est le même modèle que le marché carbone européen, c'est-à-dire vous avez des quotas et que lorsque vous dépassez ces quotas, eh bien vous pouvez en racheter à des entreprises qui ont moins pollué. Donc c'est un peu le système du pollueur-payeur.
C'est un peu encore, hein, bon ça, il y a aussi ça chez nous, hein, c'est le système du bonus-malus, quoi, d'une certaine manière.
Oui, ben, je pense que parmi toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui pour essayer de réguler toutes ces entreprises les plus polluantes dans le monde, et ben le marché carbone en fait partie. La réserve que l'on peut émettre sur le marché carbone qui vient d'être lancé en Chine, c'est que les transactions sont fixées, la tonne de carbone, elle est fixée assez basse aujourd'hui, c'est-à-dire aux environs de 7 $, alors que dans l'Union européenne, on est à 36 $. Donc il va falloir quand même faire pression pour que le prix du carbone augmente et faire en sorte que ce soit au juste prix, parce qu'on sait bien que quand les amendes ne sont pas très élevées, les entreprises ne mettent pas les moyens en place pour changer leur modèle et faire en sorte de moins polluer.
Alors, ce qui est caractéristique en Chine, c'est aussi qu'on teste sur des villes ou des petites zones. On voit si l'expérience est profitable ou non et on la transpose dans d'autres endroits, voire même on l'intègre un peu partout. Après, on la répand dans l'ensemble du territoire. C'est quand même quelque chose d'un peu original, cette façon de faire.
Oui, c'est une méthode totalement éprouvée dans l'Empire du Milieu, c'est-à-dire ils traînent des tests très ciblés, ils analysent pendant 2-3 ans, ils regardent, ils font un réajustement et après ils le déploient au niveau national. Donc c'est probablement une méthode assez efficace pour ne pas déployer trop vite et faire en sorte que des erreurs ou les réajustements nécessaires soient mis en place dès lors où ça concerne l'ensemble du pays.
Alors, une chose qui peut être positive aussi, c'est la durabilité du régime en place, on va dire, qui peut décider ou préparer des choses à long terme, contrairement à nos gouvernements qui, évidemment, sont remis en cause tous les 5 ans. En France, par exemple, il y a une vraie visibilité qui pourrait être, on va dire, un moteur aussi, enfin, une façon de travailler sur du long terme, quitte à réajuster parfois entre deux dans des situations intermédiaires.
Oui, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'un régime autoritaire pour faire des planifications à 5, 10, 15 ans. C'est vrai que notre modèle démocratique fait qu'on est plutôt sur des élections et donc sur des politiques court terme. Mais voilà, nous on est français, donc on peut facilement dire que c'est un régime efficace. Personnellement, je pense qu'on pourrait arriver à trouver des solutions sans aller dans le régime, dans un état de non-droit comme la Chine.
Bien sûr, le tout est que les politiques qui s'inscrivent à un moment donné sur 20 ans soient respectées, qu'il y ait une sorte de garantie de poursuite de cette action dans le temps par les gouvernements qui suivront. Bon, on va peut-être y arriver, ce sera peut-être l'enjeu des prochaines campagnes.
En fait, la Chine a été très impactée par des pollutions multidimensionnelles, c'est-à-dire la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution des terres. Et donc, les Chinois ont vécu dans leur chair aussi les conséquences du réchauffement climatique. Nous, on voit bien que quand il y a des catastrophes, que maintenant les scientifiques lient au réchauffement climatique, et les populations et les politiques, qu'on commence à... Pour les populations, je pense que ça c'est fait, mais au niveau des politiques ou des chefs d'entreprise, commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire différemment ou peut-être d'accélérer les mesures à prendre. Parce qu'on le vit de manière concrète, que ce soit les incendies, que ce soit les inondations, on l'a vu ces derniers mois, à quel point ces catastrophes naturelles sont en train de s'accélérer, qu'une grande majorité est liée au réchauffement climatique ou à l'urgence climatique. Et que c'est principalement quand on est confronté à ces catastrophes qu'on réagit de manière un peu plus concrète.
Alors, parmi les solutions qui ont été mises en place, il y a notamment le reboisement considérable, presque reforestation de certaines zones de Chine, notamment celles où le sable avait tendance à avancer. Donc ça avait bien démarré, mais là le sable est vraiment très fort. Cet an dernier, il est retombé pas mal à Pékin, je pense.
Oui, il y a régulièrement des tempêtes du désert de Gobi. Donc il y a un projet qui est pharaonique, qui est la reforestation du nord du pays, qu'on appelle la Grande Muraille Verte, où déjà sous Deng Xiaoping, c'était un projet qui remonte, qui a été lancé en 1978 et qui devrait s'achever en 2050, qui permet de reboiser et faire reculer l'avancée du désert du Gobi, qui est le plus grand désert de Chine. Et donc cette Grande Muraille Verte s'étend sur une longueur de 4800 km et sur une largeur de 1500 km. Donc on voit bien à quel point c'est impressionnant le nombre d'arbres. Je crois qu'on en est déjà à 60 milliards d'arbres plantés. Mais il y a déjà 400 000 personnes qui sont des réfugiés climatiques, qui habitaient justement dans ces zones et qui ne peuvent plus vivre sur place du fait de l'avancée du désert. Et ça, on estime qu'avec ces avancées des déserts en Chine, pas seulement celui du désert de Gobi, ça pourrait concerner 400 millions de personnes. Donc on voit à quel point cela peut être impactant pour les populations de, voilà, de ces avancées qui sont aussi liées au réchauffement climatique. Mmh.
Donc, c'est vrai que ce désert avançait, je veux dire, déjà il y a 20-30 ans, même avant. Hein, il y a eu sans doute peut-être pas mal de déboisements pour construire les habitations. Je parle de l'ouest, l'extrême ouest de la Chine, qui a un peu épuisé le bois. Hein, et peut-être l'eau, on ne sait pas trop où elle est passée, mais on voyait bien que les rivières fondaient depuis quelques années. Là, il y avait toute cette reforestation, ce reboisement qui était quand même impressionnant. Enfin, moi, j'ai vu des montagnes, notamment la montagne Xingling, etc., d'un seul coup repeuplées d'arbres. Même, ça faisait très artificiel tellement il y en avait partout, même tout en haut. Ils arrivaient à semer ça par hélicoptère ou je ne sais pas trop. Et c'est assez impressionnant de voir cette densité de bois, d'arbres dans certaines régions. Alors après, c'est vrai que c'est toujours une bataille qui n'est jamais gagnée, visiblement. Et donc, les habitants sont quand même très conscients et investis. Hein. Je pense aux gens qui travaillent dans ces milieux un peu agricoles et ces campagnes.
Bah, en fait, les habitants qui vivent à proximité de ces zones, eh bien, ils perdent leur culture du fait de ces tempêtes de sable. Et du coup, maintenant, pour certains, ils participent au reboisement, toute cette reforestation artificielle, qui parfois pose problème parce que, au départ, ils ont lancé beaucoup de monocultures, ce qui ne permettait pas la biodiversité. Ils plantaient des arbres qui n'étaient pas adaptés à la région. Mmh. Et puis, bien sûr, que ça vient assécher les nappes phréatiques, parce que comment faire en sorte que des forêts entières prennent la place de déserts? Donc, mais ça, c'est réagir aux conséquences du réchauffement climatique. Il va bien falloir prendre et investir et changer son modèle de pensée qui fait que là, on est dans un modèle où on répare les conséquences du réchauffement climatique alors qu'il faudrait qu'on mette tous les moyens sur faire changer la donne du réchauffement climatique et non plus se contenter de réparer. C'est comme on en parle à la fin de mon livre sur Shanghai, qui est une des villes qui pourrait être sous l'eau d'ici la fin du siècle et qui investit des milliards pour construire des digues, ériger des murs pour résister aux vagues et aux vents de force importante. Donc là, la ville anticipe également sur les conséquences du réchauffement climatique, mais elle continue à pousser sa croissance économique. Donc là, on est dans une totale contradiction. Donc bien sûr que les moyens là sont faits pour les populations et que ça aide, mais à terme, c'est absolument pas vers cette direction-là qu'il faut s'orienter.
Alors, Nathalie Bastianelli, quand la Chine s'éveille verte, donc votre ouvrage ne traite pas que du réchauffement climatique, enfin des modifications climatiques, mais aussi de la pollution. Et dans ce cadre-là, récemment, des mesures ont été prises pour déjà limiter l'impact, notamment dans ce qui était réalisé avant, c'est-à-dire que la Chine récupère les produits, les poubelles des autres pays ou d'autres pays pour les retransformer sur place et les recycler d'une certaine manière. Donc ça, c'est fini maintenant.
Oui, mais juste pour redire, c'est que effectivement, le titre de mon livre, c'est « Quand la Chine s'éveille verte », mais le sous-titre, c'est un témoignage sur les Chinois qui s'engagent pour la planète. Donc ce livre est principalement pour raconter les initiatives de la société civile, des entrepreneurs, des citoyens, des ONG. Alors bien sûr que dans le premier chapitre, je traite de toute cette politique verte du gouvernement chinois, comme ça permet de dresser un contexte, enfin de poser le contexte. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de raconter des histoires de tous ces gens, une frange de la population qui, comme ici, comme partout ailleurs, s'engage et se lève pour la planète. Et ça, c'est vraiment l'objectif de mon livre, c'était de témoigner de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ces 6 dernières années. Et là, vous avez raison, là, c'est le chapitre sur le zéro déchet que le gouvernement a décidé en 2018 d'arrêter d'être la poubelle du monde, c'est-à-dire de continuer à importer massivement les déchets des pays occidentaux, principalement, parce que d'une part, avec le fait que sa classe moyenne grandissait, elle avait suffisamment de déchets à gérer, et puis aussi parce que ça devenait très polluant pour son environnement. Et maintenant, avec sa politique qu'elle a mis en place, elle ne peut plus se permettre, et je pense qu'elle a suffisamment de déchets à gérer. Et donc voilà, ça fait partie des décisions politiques du pays, de dire « Ok, maintenant on va gérer les déchets dans nos villes, on va s'inspirer d'ailleurs du cas de San Francisco, la première ville zéro déchet dans le monde, et on va aussi le tester, mettre en place, choisir 10 villes pilotes et faire en sorte d'éduquer les Chinois à recycler leurs déchets, voire en émettre moins. »
Alors, je ne sais pas si dans les villes pilotes, il y a la ville de Xi'an. En tout cas, moi, j'ai vu dans des résidences là-bas des installations de 4 poubelles différentes pour que les gens fassent un tri sélectif, peut-être plus sélectif encore que ce qu'on fait ici, notamment à Lille. Donc, on sent des prises en compte, sinon des contraintes nouvelles pour les habitants. Comment réagissent-ils ?
Bah, je pense que ça participe à faire en sorte que le pays aille mieux sur le plan environnemental. Donc, je pense que les Chinois, de toute façon, vous savez, en Chine, quand on vous impose des nouvelles règles, vous n'avez d'autre choix que de les accepter. Et puis après, il y a de l'accompagnement. Donc oui, vous avez raison. Ils ont mis en place, donc probablement qu'avec ce que vous me citez, Xi'an, je ne me souviens pas, mais Xi'an doit faire partie de ces 10 villes pilotes, ce qui fait que effectivement, vous avez le tri des déchets pour le plastique, pour les déchets en général. Et là, la Chine a rajouté une poubelle de déchets humides, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le compost. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils le collectent, ils s'en servent après comme de la biomasse. Donc ça, c'est ce qui a fait la différence. Et il y a la troisième poubelle, enfin voilà, là, on est à 3. Et la quatrième poubelle, ce sont les déchets dangereux électroniques qu'ils récupèrent aussi.
Donc, on sent bien cette prise en compte. En termes, justement, d'éducation, parce que la contrainte sans l'éducation, c'est peut-être plus pesant. On peut dire qu'il y a aussi... alors, je ne sais pas si tous les enfants à l'école ont un programme sur l'écologie, mais en tout cas, je vois quand même sur TikTok ou d'autres choses, leur TikTok chinois, des préoccupations à montrer des vidéos de nature ou de choses pour respecter un petit peu mieux l'environnement.
Oui, oui, absolument. Bien sûr qu'il y a maintenant il y a des cours de sur la protection de l'environnement qui sont enseignés dans les écoles, que ça aille du primaire aux universités. Ça a été mis en place déjà depuis quelques années. Et puis les Chinois, je pense qu'ils sont comme tous les autres. Ils ont envie de respirer un air pur, ils ont envie de voir du ciel bleu. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait comme ici, sur l'importance de la protection de la nature, et que maintenant, on le voit, il y a des activités loisirs qui fait qu'ils vont se promener. Enfin, tout ce qui touche le loisir dans la nature est en train de se développer de manière massive. Et puis, vous avez cette blogueuse chinoise, Li Zhezhe, qui fait des vidéos. Donc, c'est une blogueuse qui a lancé des vidéos où elle filme son style de vie, mais qui est très lié à la nature. Et elle fait des millions et des millions de vues, alors qu'il n'y a absolument pas de marketing derrière. C'est vraiment montrer la beauté de la nature. Donc, elle montre comment elle prépare ses plats, comment elle vit au quotidien. Et en fait, les Chinois ont adoré les vidéos de cette jeune femme. Donc, on voit bien qu'il y a une appétence pour redonner un peu de sens et puis aussi aller vers un environnement qui soit mieux protégé.
Il n'y a pas que les Chinois qui sont intéressés à cette jeune fille qui montre aussi un savoir-faire qu'elle a peut-être hérité de ses grands-parents, pourquoi pas, et qu'elle transmet au travers de ses vidéos.
Oui, c'est vrai, il y a des millions de vues sur YouTube, sur Facebook. Elle a vraiment une communauté, alors peut-être la diaspora chinoise qui vit à l'extérieur des frontières, mais... Oui, c'est incroyable qu'elle ne vend rien, elle ne propose rien. Donc là, on est très éloigné du mode consumérisme qui est très implanté en Chine, et pas que d'ailleurs. Mais voilà, donc ça donne de l'espoir en disant, voilà, il y a quand même une frange de la population qui est maintenant tentée par une vie, ce que décrivait un peu Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, c'est-à-dire que voilà, redonner du sens à sa vie, et ça passe aussi par profiter de la nature et du coup la protéger pour pouvoir être sûr que les enfants, les nouvelles générations puissent en profiter aussi.
Donc la protéger, ça peut prendre deux formes en Chine. Enfin, j'ai assisté à deux styles de protection. Un, c'est par exemple un village WWF qui m'a paru assez étonnant dans cette zone du Shaanxi. Et c'est très très intéressant, j'y ai vécu 4 jours, c'est vraiment, tout est fait pour se sentir dans la verdure, mais voilà, vraiment l'écologie quoi, avec tous les bâtiments qui sont prévus pour ça, une bibliothèque, un musée de la nature et des promenades, vraiment un site protégé.
Ah oui, il y a beaucoup, enfin, j'en parle dans mon livre quand je parle du tourisme durable, maintenant vous avez même des lodges, enfin, des hôtels qui vous proposent d'aller couper des bambous et après de participer à la construction de matériaux utilisés pour la zone dans laquelle, là où vous êtes hébergé. Enfin, il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup de promenades, il y a beaucoup, enfin voilà, c'est des nouvelles activités, parce qu'il y a beaucoup d'urbains en Chine, hein, mais c'est comment ces urbains ont cette envie de se reconnecter à la nature et maintenant l'offre devient de plus en plus importante. Pour, enfin, exactement le centre que vous citez là, qui est probablement une coopération avec le WWF. Mmh.
Et donc une chose aussi qui a beaucoup changé, c'est le tourisme de masse chinois qui, au bout d'un moment, tournait un peu en rond et pollue énormément. Il y a une autre façon maintenant de réaliser ce tourisme, c'est d'aller dans des sites quand même rénovés ou intéressants, mais en petits groupes et pas en quantité, pour apprécier non seulement le cadre, mais aussi voir comment les gens vivent et peut-être mieux s'intégrer qu'avant, où ils étaient un peu débordants de pollution, pas seulement de pollution active, mais aussi de présence un peu indésirable.
Bah, en fait, il y a eu le tourisme de masse où c'était des groupes avec voilà, effectivement, où ils allaient dans des sites touristiques les plus connus en Chine, etc. Et je pense qu'il y a un avant et un après Covid. Et suite à la pandémie et au Covid-19, il y a maintenant une grande sensibilisation sur le tourisme durable et le gouvernement a souhaité qu'il n'y ait plus de grands groupes qui se déplacent. Et que pour les zones protégées, voilà, ce doit être des petits groupes. On leur donne des directives, à savoir, on les sensibilise dès qu'ils prennent un billet pour la visiter, pour se déplacer, pour leurs vacances, notamment en Chine. Eh bien, des directives sont partagées sur de garder ses déchets, de les trier, de les recycler, de ne pas abîmer la faune et la flore. Voilà, il y a toute une sorte de directives qui a été mise en place et auxquelles voilà, pour sensibiliser justement le touriste chinois quand il se déplace. Et il y a eu des études de fait d'ailleurs hein, qui disaient que 80% des jeunes, ce qu'on appelle les milléniaux chinois ou les milléniaux en général, qui sont âgés de 15 à 34 ans, qui sont des gros consommateurs de tourisme en Chine et au pouvoir d'achat confortable, se disaient prêts à payer plus cher une activité respectueuse de la vie sauvage. Donc on voit bien qu'il y a quand même toute une campagne de sensibilisation qui est lancée et qui fait que maintenant les gens, quand ils en ont conscience, ils sont prêts à faire attention.
Une chose aussi peut-être qui va prendre voilà, qui donne de l'espoir et de l'optimisme, c'est bon, en Chine il y a 56 ethnies, en gros ils appellent ça comme ça, et certaines ethnies étaient assez minoritaire, enfin très très peu peuplé, on va dire, mais avec tout ce tourisme qui s'est développé, on assiste aussi dans toutes ces vidéos dont on a parlé un peu à une présentation, une remise en scène en quelque sorte de ces ethnies. Alors il y a peut-être un côté un peu superficiel, mais il y a quand même sans doute pour ces ethnies moyen d'être valorisées et peut-être même de résister et peut-être pourquoi pas de se développer.
Oui, mais ça, je pense que c'est propre à toutes les régions du monde. C'est-à-dire que maintenant que le tourisme se développe de manière très importante pour les Chinois, puisqu'ils ont les moyens de voyager, ils ont les moyens de se déplacer. Là, maintenant, depuis qu'on est en phase de pandémie, le Chinois voyage principalement, fait principalement du tourisme intérieur, qui a été relancé assez rapidement, c'est-à-dire depuis juillet 2020. Et l'idée, c'est de faire découvrir toute la richesse des régions et que ce tourisme qui se développe profite aux populations locales et notamment aux ethnies que vous citez. Après, je ne sais pas si ça va pouvoir les protéger, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir des revenus et d'avoir des revenus probablement dans des zones qui n'étaient pas, qui étaient peut-être moins développées économiquement.
Oui, avec parfois un retour de ceux qui avaient quitté ces villages pour justement faire un petit peu de business, et les conditions s'y prêtant dans certains endroits qui sont très touristiques.
Oui, c'est vrai que j'entends régulièrement des histoires d'urbains vivant à Shanghai, Pékin, où la famille avait beaucoup économisé pour que le jeune puisse étudier et avoir une vie réussie dans les grandes villes chinoises, et qui maintenant quittent leur travail, ça peut être des avocats, des femmes ou des hommes d'affaires, et retournent dans leur région pour avoir des métiers plus connectés à la nature. C'est ce qu'on voit un petit peu partout. Bon, c'est encore marginal, mais c'est vrai que ces histoires-là, j'en ai entendu parler. Oui.
Donc, Nathalie Bastianelli, le temps passe et je ne me lasserai pas de vous écouter, bien sûr, mais je propose aux auditeurs de lire ce livre « Quand la Chine s'éveille verte ». Et on peut peut-être conclure sur justement votre idée, hein, qui est que l'usine du monde devient finalement le laboratoire du monde.
Oui, oui. Alors là, je ne pense pas qu'il n'y ait que des technologies qui peuvent sauver la Chine, mais en tout cas, c'est vrai que d'aller vers un monde plus axé sur des technologies modernes, plus sobre en énergie et peut-être plus axé sur les services, permettrait à ce que ce soit moins le pays le plus pollué, le plus polluant.
Voilà, bien Nathalie Bastianelli, je vous remercie infiniment et souhaite bon succès à ce livre qui, pour moi, est majeur, bien sûr.
Merci beaucoup, René Laverne.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
Allez, une petite promenade au Yunnan quand même, c'est magnifique le Yunnan. Allez-y si vous pouvez un jour, pourquoi pas. Magnifique chanson sur laquelle je vous laisse dans quelques instants avec la suite des programmes de Radio Campus. Pour réécouter cette émission, c'est très simple, dans quelques instants, on va dire dans 5 minutes ou 10 minutes ou dans un mois, vous allez sur le site de Radio Campus, campuslille.com, et puis vous pouvez récupérer l'archive complète de l'émission Ondes de Chine. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Le mois prochain, un autre sujet sur la Chine, le premier samedi du mois, chaque premier samedi du mois, et toutes les émissions sont en ligne sur le site ondesdechine.fr. Quelques instants, place à Méta Classique sur Radio Campus. Et le rendez-vous avec le cinéma, ce sera à 14h.